Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir sur le live Facebook et sur le site.fr d'Eurosport pour un nouveau numéro de Bistro Vélo, comme tous les lundis à 17h ou à 18h. On est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion, la bicyclette. Rudy Mollard sera avec nous dans quelques instants, notre invité aujourd'hui, le temps pour nous de découvrir le menu du jour. Alors au menu, aujourd'hui, une frayeur espagnole. Et oui, on a eu peur pour Rudy. Il nous expliquera ce qu'il s'est passé, comment il va. Le Bistro News, on parlera bien entendu Vuelta, le tour du Benelux et le tour de Grande-Bretagne qui est en train de se tenir actuellement. Et puis Rudy, tout simplement, cette fameuse troisième partie où on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur notre invité, essayer de creuser qui est le coureur, qui est l'homme qui se cache derrière le coureur lorsqu'il enlève casque et lunettes. Rudy Mollard de la formation Groupama FDJ est en notre compagnie. Salut Rudy, comment ça va?
Salut à tous.
Rudy, de retour chez toi, de retour en France, c'est ça?
Ouais, de retour, ouais, ça fait du bien.
Oui, j'imagine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Rudy Mollard, c'est il y a quelques jours, hein, c'était sur la 16e étape de la Vuelta, une vilaine chute et derrière pas mal de complications. Tu peux nous expliquer un petit peu, Rudy, ce qui s'est passé?
Ouais, j'ai été impliqué dans une grosse chute massive en début d'étape où trois coureurs ont abandonné sur le coup d'ailleurs, donc c'est quand même assez rare. Et ça a tapé assez fort et j'ai eu un pneumothorax, contusion au poumon et côte cassée. Donc, comme le pneumothorax était quand même assez important, il a fallu poser un drain et ça m'a valu quelques jours à l'hôpital.
On s'est bien occupé de toi du côté de l'hôpital en Espagne?
Ouais, très bien. J'étais au CHU de Santander et non, ils étaient super. En plus, le chef de service était fan de vélo, donc il venait discuter. Non, c'était très bien reçu, ouais.
Et le fait de rentrer à la maison, j'imagine que ça doit faire du bien. On a regardé les copains à la télévision sur la fin de cette Vuelta. Et puis, de retour chez toi, j'ai cru comprendre qu'on t'avait ordonné pendant 4 semaines de ne pas pratiquer d'activité sportive. C'est bien ça? Donc, ça veut dire une fin de saison, hein?
Ouais, voilà, fin de saison. Ouais. Pendant 4 semaines, je ne peux pas faire de sport. Donc, ce sera trop juste pour les classiques italiennes et le Lombardie. Ouais, ça, c'est sûr, ouais. Et puis même, je ne peux pas prendre l'avion non plus. Donc même pour les déplacements, ça aurait été compliqué. Voilà, c'est fin de saison tout de suite. Ouais.
C'est toujours impressionnant, vous, la façon dont les cyclistes professionnels vous banalisez un petit peu à l'accident. J'ai un pneumothorax, on m'a posé un drain, mais ça va, tout va bien. Ça fait partie du boulot, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, oui et non. Après, j'ai essayé de le prendre du bon côté. De toute façon, la blessure est là, l'accident est là, donc autant essayer de passer à autre chose et puis essayer d'aller de l'avant que se morfondre sur son sort et se dire oh, « j'ai pas eu de chance, j'ai pas pu finir, j'aurais eu des opportunités, etc. » Ben non, c'est comme ça. Et puis maintenant, faut passer à autre chose. Ouais. Ça aurait pu être plus grave, je m'en sors quand même plutôt bien. Là, je peux de nouveau me déplacer, marcher et puis dans quelques semaines, ce sera terminé. Donc, voilà, c'est pas, j'aurais pas de conséquences normalement sur le long terme.
Ça fait plaisir de te retrouver comme ça en pleine convalescence. On espère pour toi que ça va aller très vite. L'occasion pour moi de vous rappeler également, vous le savez, c'est votre émission, le Bistro Vélo. Vous participez, vous êtes déjà très nombreux. Bonjour à Jean-Luc, à Nathalie, à Lilian qui sont présents sur le Facebook Live. Vous posez vos questions pour Rudy, on en sélectionnera quelques-unes. Rudy, on va rester justement sur cette Vuelta, si tu le veux bien. On était parti du côté de la formation Groupama FDJ avec, allez, pour ambition de mettre toutes les chances de son côté pour Arnaud Démare dans les arrivées au sprint. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour l'ancien champion de France.
Ouais, malheureusement, l'objectif, c'était une victoire d'étape. On a une deuxième place. C'est sûr qu'on ne s'en satisfait pas. On voulait plus. Quand on voit les talents d'Arnaud en sprint, c'est sûr qu'on venait pour gagner. Après, ben voilà, ça fait partie de la course et des sprints. Où on a fait des erreurs, où on n'a pas su trouver l'ouverture quand il le fallait, pas faire aussi l'effort au bon moment, parce qu'Arnaud, je pense qu'il était en bonne condition. D'ailleurs, on l'a vu en montagne, pas du tout en difficulté. Donc, c'est sûr qu'on a des regrets sur cette Volta. Après, ça fait partie du vélo, hein. On ne peut pas gagner 4 étapes tous les ans.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, Arnaud Démare qui va essayer maintenant. Le grand objectif de la fin de saison, ça sera le Paris-Roubaix, comme il l'a annoncé le sprinter de ta formation Groupama FDJ. Avec le recul, vu que tu es déjà, toi, sur ta fin de saison, Rudy, comment tu la juges, justement, cette année 2021?
Bah, très rapide, hein. Je pense que le niveau homogène du peloton, il est vraiment très haut et c'est sûr que tout le monde s'en est rendu compte, hein, spectateurs et coureurs. C'est sûr que ça roule très vite et maintenant, voilà, pour trouver les ouvertures, il faut vraiment être à 100% et la saison a été quand même bien dense et il n'y a pas eu de moment où les gars étaient moins forts, hein. J'ai l'impression que tout le monde était à 100% du début à la fin et on l'a encore vu là, cette fin de Volta. Ouais, elle était folle, quoi. Des étapes où ça bataille,
Ah, ça débranche pas.
ça débranche jamais. Ouais. Le nombre d'étapes à la Volta où ça a mis 80-90 km à sortir, d'habitude, ça sort beaucoup plus tôt. Il n'y avait pas ça avant. Donc, Après, les routes espagnoles aussi favorisent bien les attaques parce que c'est des grandes routes, parfois des deux voies. Il n'y a pas beaucoup de ronds-points, pas beaucoup de villages à traverser. Donc, Voilà, dans les roues, on peut souvent récupérer et ça permet vraiment de ouais, faire comme un roulement en tête de peloton au niveau des attaques et du coup, ça n'en finit jamais, quoi.
Et toi, Rudy, à titre personnel, comment tu la juges ta saison 2021? On rappelle, hein, il y a eu un événement marquant sur les championnats de France, notamment au mois de juin. Tu es passé tout proche, tu termines deuxième des championnats de France derrière Rémi Cavagna. C'est un petit peu l'un des moments forts de ta saison en 2021?
Ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que j'étais déçu de ne pas remporter le titre parce que je m'en sentais capable. Après, Rémi a fait vraiment un numéro, donc bon, c'était dur d'aller le chercher, mais c'est sûr, quand on fait deuxième, on refait toujours un petit peu la course. Et voilà, il aurait fallu peut-être être plus attentiste et plus se pencher vers Rémi dans le dernier tour. Et après, il a bien joué en attaquant au ravitaillement, partie sinueuse ensuite, mouillée. Il a tout de suite fait le trou, donc. Après, ouais, c'est dommage de rater le titre. C'est un championnat, donc il n'y a vraiment que le maillot qui compte. Mais ouais, il y en aura d'autres.
Ah, il y en aura d'autres. Émilien qui nous demande sur le Facebook Live, Rudy, est-ce que tu as déjà la tête tournée vers 2022? Est-ce que tu as des projets, un calendrier de course, même si on n'est qu'au mois de septembre?
Ouais, non, c'est dur déjà de se projeter. Là, j'ai envie de souffler vraiment.
Laissez-le revenir sur son vélo tranquillement, laissez-le
Après, on verra
récupérer.
pour cet hiver.
Cet hiver, effectivement, on verra ça, on verra ça. Tu as fait une prolongation de contrat avec cette formation Groupama FDJ, il me semble que c'était au mois de juin. Tu es lié avec l'équipe de Marc Madiot jusqu'en 2024, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'an passé que j'ai
L'an
prolongé.
passé, effectivement. Est-ce que dans le futur, parce qu'il y a pas mal de questions qui vont dans ce sens, à quand Rudy sur une grande course comme leader? Est-ce que tu as eu quelques assurances? Est-ce que tu as, toi, des envies justement d'avoir le leadership sur une grande classique, sur une course par étapes qui pourrait te convenir?
Ouais, bien sûr, mais je l'ai déjà, ma carte, de temps en temps. Après, ça, quand il y a des leaders comme Thibaut, comme David Godu, bah, qui peuvent aller gagner, forcément, c'est impossible d'avoir un rôle de leader. Il faut que j'en profite quand ils sont pas là. Et ça arrive de temps en temps. Et quand je gagnais à Paris-Nice, c'était le cas. J'ai su saisir ma chance. Et j'ai souvent l'opportunité quand même dans l'année de saisir ma carte. Donc, il faut vraiment que j'en profite à ce moment-là.
Justement, ouais, c'est ça, on surnomme toujours Rudy comme le lieutenant de luxe de David Godu, de Thibaut Pinot. T'es d'accord un petit peu avec cette étiquette? C'est vrai que bah, avec Thibaut, vous avez partagé beaucoup de courses ensemble dans le calendrier et on compte souvent sur toi dans la groupe AMFDJ pour essayer d'emmener Thibaut assez loin en montagne notamment.
Ouais, bien sûr. Bah, surtout ma force, c'est que je suis plutôt régulier, donc l'équipe sait qu'elle peut compter sur moi dans toutes les périodes de l'année. Je suis rarement en méforme, donc comme je réponds quand même souvent présent, c'est vrai que l'équipe aime bien me faire confiance et les leaders aussi aiment bien avoir un équipier sur qui se reposer et sur qui on a confiance sur son niveau avant le départ de l'épreuve. Ouais.
Adrien qui te dit à Rudy, deux victoires dans la carrière professionnelle de Rudy, ce n'est pas assez pour le coureur, c'est un sacré coursier, il mérite plus. On le rappelle, il y a eu cette victoire, tu en parlais tout à l'heure sur les routes de Paris-Nice, et surtout cette victoire en 2018, elle devait avoir une double saveur puisqu'elle était du côté de Vence, chez toi, là où tu résides.
Ah ouais, c'est sûr, surtout que je gagne en étant avec les meilleurs dans le final et pas sur une échappée. C'est surtout ça ma satisfaction ce jour-là, c'est d'avoir battu les plus forts de Paris-Nice et pas être parti au kilomètre zéro. C'est vrai que c'est un grand moment dans ma carrière, c'était assez exceptionnel. Et en plus, maintenant, j'habite à à 1,5 km de la ligne d'arrivée. C'était pas le cas quand j'ai gagné en 2018, mais depuis j'ai déménagé et c'est vrai que maintenant j'habite à Vence, donc c'est vrai que je passe souvent sur la ligne.
Tu peux pas l'oublier.
Ah non, là je peux pas l'oublier. Ouais.
Tu peux pas l'oublier. Effectivement, cette victoire à Paris-Nice, donc en 2018. Rudy, tu as couru le Giro d'Italia en début de saison, la Vuelta, donc ça s'est pas terminé de la meilleure des façons pour toi, forcément. Est-ce qu'il y a un coureur cette année qui t'a, allez, impressionné un petit peu plus que les autres, ou quand tu t'es retrouvé à côté de lui dans le peloton, tu t'es dit, lui m'impressionne, lui il marche fort.
Bon, tous les grands leaders sont impressionnants hein, quand tu te retrouves à côté de Roglic là sur la Vuelta ouais tu vois qu'il est vraiment au-dessus très concentré et puis dans le peloton c'est vrai qu'il se balade hein. Donc c'est vrai que c'est des coureurs qui donnent pas l'impression de forcer et qui sont vraiment efficaces et qui sont supérieurs à tout le monde. Donc c'est sûr que les grands champions comme ça, bah c'est toujours impressionnant de voir entre guillemets leur facilité dans le peloton, quoi.
Il y a dans cette formation Groupama FDJ un solide collectif avec toi, avec Arnaud Démare, avec David Godu, des Valentin Madouas, des Thibaut Pinot. Comment ça s'est passé ce début de saison? On le sait, il y a eu pas mal de problèmes. Tu étais avec Thibaut Pinot en préparation de ce Giro d'Italia, on le rappelle. Thibaut qui n'a finalement pas fait le déplacement. Comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur?
Bah, c'est vrai que c'était un peu des changements d'état d'esprit rapides, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où on reprenait espoir que Thibaut ait plus mal. Après, la semaine d'après, bah, ça redevenait compliqué. Il y a eu Tirreno, après, il y a eu post-Tirreno, Tour des Alpes. On s'est dit, bah, ça va peut-être aller. Finalement, ça va pas. Et au final, des fois, peut-être qu'on s'emballait, des fois, on était déçus. Donc. C'est vrai que Thibaut, quand même, il tire un peu l'équipe vers le haut. Quand il est à 100%, bah forcément, derrière, tout le monde suit et tout le monde élève aussi son niveau. Donc, quand il n'est pas là, c'est sûr que ça fait un vide et on attend tous, son retour. Hein.
Une question de Sidonie, Rudy. Est-ce que, avant de prolonger dans cette équipe Groupama FDJ, tu as été courtisé par d'autres formations? Est-ce que tu as eu des envies d'étrangers? Peut-être, on le sait, c'est en train de devenir un peu à la mode. On sait que Christophe Laporte, notamment, ira du côté de la Jumbo-Visma. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, toi, c'est quelque chose qui t'a trotté dans la tête? Ou alors pas du tout?
Ouais, bien sûr, j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé. C'est vrai que j'ai toujours voulu aller vivre une expérience à l'étranger, mais voilà, j'ai jamais osé. Il y a un moment, il faut faire des choix. Et dans l'équipe Groupama FDJ, je me sens bien. On a tout ce qu'il faut pour performer. Voilà, c'est dans le groupe, je sens que j'ai ma place. Et voilà, on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et
Oui, c'est pas faux.
des fois, c'est sûr, faut prendre des risques, mais là, je me sentais bien et si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais changé, c'est certain. Mais là, en me sentant bien quelque part, pourquoi changer? Ouais, non.
Esteban Rudy était déjà un coureur expérimenté, 31 ans. Comment tu juges, de par cette expérience, l'évolution du cyclisme, toi, avec notamment cette émergence des jeunes talents? On le voit, on gagne de plus en plus tôt au niveau de l'âge chez les coureurs, notamment les grandes courses, les Remco Evenepoel, les Tadej Pogacar, les Marc Hirschi. Comment tu juges ça, toi, peut-être les coureurs également qui passent directement de junior chez les professionnels en sautant la catégorie espoir? Ça t'inspire quoi?
Oui, bah c'est sûr que c'est nouveau par rapport à mon époque. Hein. C'est vrai que chez moi, on laissait plus le temps aux jeunes d'évoluer. On passait de 120 bornes de course en junior à 160 en espoir, 180, c'était déjà une étape. Maintenant, les gars passent de 120 à 250 sur une classique ardennaise. Donc, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Nous, encore en espoir 3, espoir 4, on pouvait passer pro. Maintenant, si en espoir 2, t'es pas passé, bah, limite, on ne te fait plus confiance, quoi. Alors que les potentiels des jeunes, c'est dur de juger en 1 ou 2 ans. Il y en a beaucoup qui étaient prometteurs et qui n'ont rien fait. Et à l'inverse, comme Geoffrey Bouchard, quand on voit là le niveau qu'il a actuellement, qui est passé pro très tard, il aurait loupé une belle carrière. Ouais, c'est vrai que des fois, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et c'est surtout que je pense qu'on va louper des talents à vouloir les faire passer trop tôt.
Oui, les griller peut-être un petit peu, c'est ça?
Ouais, peut-être aussi. Après, moi, à mon époque, on ne faisait pas les mêmes charges de travail aussi en cadet junior que maintenant. Maintenant, les juniors s'entraînent quasiment comme des pros, font des stages en altitude, font très attention à l'alimentation. Ça s'est vachement professionnalisé en fait chez les jeunes comparé à ce que j'ai vécu moi. Donc, ils font vachement attention à la récupération. Enfin, ils sont vraiment déjà dans la performance très jeune. Après, à voir si ça va. Si dans la durée de leur carrière, ça va pas les lâcher, on n'est pas à l'abri de coureurs qui peuvent péter un câble du jour au lendemain et tout arrêter. Mais c'est sûr que le vélo est en train de changer, c'est certain. Et maintenant, les vainqueurs du Tour sont vraiment très jeunes. Et pour performer et pour passer pro, c'est vrai que maintenant, dès les juniors, faut s'y mettre à fond. Sinon, on peut vite avoir des regrets et passer à côté d'une carrière, quoi.
En parlant de junior, toi déjà chez les juniors, tu étais à haut niveau, tu étais champion du monde, mais dans une autre discipline. On a fait des petites recherches, tu sais, on est comme ça, nous dans Bistro Vélo, on allait faire le tour des popotes un petit peu de tes connaissances. Il y avait, il me semble, en 2008, un titre de champion du monde junior, pas en vélo, enfin, quoique, sur le triathlon des neiges, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est ce triathlon des neiges? C'est quoi? C'est course à pied, VTT, ski de fond?
C'est ça, ouais. Course à pied, VTT, ski de fond et les trois disciplines dans la neige.
Faut être malade pour faire ça, non?
Ouais, c'est vraiment très dur. Ouais. Bah, s'il a neigé la veille, c'est un calvaire. S'il a neigé plusieurs jours avant, c'est damé. Donc, ça rend plutôt bien, mais sinon, ça peut vite être un calvaire. Ouais.
Comment t'en es venu au triathlon des neiges?
Bah, en fait, moi, je faisais très peu de vélo l'hiver. J'étais en métier sportif de la montagne, ski études à Barcelonnette. Et l'hiver, c'était impraticable, les routes. Donc, je faisais beaucoup de ski alpin, ski de fond, ski de randonnée, un peu de course à pied. Et c'est vrai que pour garder une condition physique l'hiver, il y a eu un championnat de France à côté de Barcelonnette. J'y suis allé, j'ai gagné. Et puis ensuite, j'étais sélectionné pour le mondial. Et je me suis dit, bah, vas-y, prépare cet événement-là, ça te servira pour ta saison de vélo. Et voilà comment j'y suis venu, quoi. Vraiment un peu par hasard.
C'est des beaux souvenirs en somme, parce qu'on sait que Rudy Mollard est un amoureux de la montagne. On en parlera ça dans la troisième partie, mais avant, on va passer à la deuxième partie. Bah, le Bistro News, on a déjà parlé avec toi de la Vuelta, de la démonstration de Primoz Roglic, hein. Quatre victoires d'étape plus le classement général. Mais il y a beaucoup, beaucoup de courses qui se déroulent en ce moment. Il y a le Tour du Benelux qui vient de se terminer avec le doublé de la formation Bahrain Victorious, la victoire sur la dernière étape du côté de Gramont de Matej Mohoric, le champion de Slovénie, et le classement général pour Sonny Colbrelli. La formation Bahrain Victorious qui marche sur l'eau véritablement depuis le début de saison. Tu es d'accord un petit peu avec ça, Rudy? Ils sont très très en forme, les coureurs Bahreïn. D'ailleurs, tu l'as vu sur la Vuelta avec Jack Egg, Gino Meder et Damiano Caruso qui étaient là aussi très en forme.
Ouais, c'est sûr qu'ils ont un niveau collectivement très haut cette année et ils gagnent beaucoup. J'ai aussi vu Caruso au Giro qui était vraiment
Oui.
impressionnant. Donc, ouais, c'est sûr que leur niveau cette année, il a vraiment passé un cap pour toute l'équipe.
Ah, tu auras le temps, toi, pendant ta rééducation, de regarder un petit peu ce qui va se passer à la télé, notamment, j'imagine, en te reposant, en récupérant. Il y a les championnats d'Europe qui vont démarrer également la semaine prochaine, enfin cette semaine, en Italie, à partir de mercredi, avec des copains à toi qui seront dans l'équipe de France sur le circuit de Trent, Thibaut Pinot, Valentin Madouas. Est-ce que tu vas les suivre avec attention? Tu as eu peut-être l'occasion d'échanger avec eux ou pas du tout à ce sujet?
Non, à sujet du championnat, non. Un petit peu avec Thibaut en amont. Mais non, c'est sûr, je vais les supporter. Ouais. Je vais regarder la course, bien sûr. En plus, c'est un circuit qui est vallonné où c'est pas non plus très raide. Donc, il peut y avoir une bonne course de mouvement. Je vais les supporter. Ouais.
Émilien, Rudy, quelle est la course qui te fait le plus rêver dans le calendrier international?
Bon, ouais, il y en a plusieurs, mais celle qui me fait rêver, c'est vraiment le championnat du monde, quoi.
Le
Championnat du
championnat du
monde,
monde.
le vainqueur qui a le maillot, pour moi, c'est la course la plus spéciale et celle qui procure plus d'émotions chaque année, quoi. Il y a vraiment une adrénaline, un stress. En plus, c'est un parcours différent tous les ans, c'est un profil de coureur différent tous les ans. Donc, ouais, c'est la course la plus palpitante pour moi.
Un titre de champion du monde plutôt qu'un Tour de France?
Ah oui, clairement.
Clairement, d'accord, ok, on est là pour savoir, effectivement.
Ouais. Ah, porter le maillot pendant une année, comme l'a fait Julien cette année, ça va être quelque chose d'exceptionnel à vivre.
Oui, puis bon, on le rappelle, tu es également un homme de championnat. Hein. Tu as souvent brillé sur les différents championnats de France. En tout cas, on te souhaite un jour de revêtir cette tunique arc-en-ciel. On va passer à la troisième partie, hein, le Bistro News. On parlait des championnats d'Europe, donc on les suivra tout au long de cette semaine. Cette troisième partie, Rudy, on va essayer d'apprendre un petit peu à mieux te connaître. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de te voir suiveur à la télévision, avec le casque, avec les lunettes. Mais on veut savoir, nous, qui est le. Allez, le véritable Rudy Mollard, on a parlé du triathlon des neiges tout à l'heure, ça a aiguisé notre curiosité. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que fait Rudy Mollard quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en compétition.
Qu'est-ce que je fais chez moi? Avant tout, du vélo. Parce que dès que je rentre, il faut s'entraîner. Donc, on débranche jamais trop, en fait, finalement. Mais non, j'essaye de partir beaucoup en montagne. C'est vrai que j'aime bien la montagne. Donc, en hiver, je fais beaucoup de ski. Et j'essaye de faire ça entre amis, parce que je n'ai pas le temps de les voir durant la saison. Donc, voilà, partir en montagne. Et nager aussi, j'aime beaucoup nager en piscine. J'y vais souvent.
Rudy est un avaleur de col. Sébastien, j'ai croisé Rudy Mollard l'an passé sur le col de l'Izoard. Il m'a littéralement enrhumé. Voilà, bah, t'as doublé des gens dans le col de l'Izoard. T'es arrivé de Briançon, apparemment.
Ouais, c'est possible. Ouais. L'Izoard, je le monte souvent quand je suis dans les Hautes-Alpes, parce que j'adore ce col. Ouais. Pour moi, c'est un des plus beaux, ouais. Un des plus beaux de France.
Il y a des endroits comme ça où t'aimes aller te ressourcer. Tu parlais de la montagne, les Alpes, les Pyrénées. Il y a un endroit en particulier où tu aimes aller pour t'entraîner ou pour passer du temps peut-être avec tes proches?
Ouais, j'aime beaucoup Embrun. J'ai ma belle famille qui est là-bas, mon père qui est là-bas. Le plan d'eau d'Embrun, le lac de Serre-Poinçon, les Hautes-Alpes, le massif du Queyras, pour
C'est
la
sympa.
montagne, le ski, ouais, c'est sympa, j'aime bien. Ouais.
Comment tu es venu au cyclisme, Rudy?
Mon père a fait une carrière en amateur, donc le week-end, j'allais l'encourager sur les courses. Et mon grand-père, du côté de ma mère aussi, a fait beaucoup de vélo, a fait des courses, une famille de vélo. Donc, je suis venu un peu naturellement.
Tu étais dans le moule cyclisme.
Ouais, voilà, dans le cyclisme. Et puis, dès que j'ai eu 11-12 ans, j'ai pris une licence au même club que mon père et j'ai commencé à faire 2-3 courses durant l'été, avoir mon premier vélo et après, regarder de plus en plus les courses à la télé, aller voir le Tour de France. La première fois que je suis allé voir le Tour, c'était en 98, quand il y avait eu la grève. Je me rappelle, j'avais attendu des heures pour les voir passer. Et puis, ouais, petit à petit, ça m'a vraiment donné envie de faire du vélo et j'ai eu la passion. Et après, c'était parti. Ouais.
Tu avais un modèle, un idole de jeunesse pendant que tu étais allez, adolescent, jeune adulte, un poster dans ta chambre, je ne sais pas, tu parlais du Tour 98, un Marco Pantani, un Richard Virenque, des coureurs qui t'ont fait rêver ou alors pas du tout.
Ouais, si, moi, mon idole, c'était Alejandro Valverde. Et je me
Et
rappelle,
tu cours encore avec lui?
avec, ouais. C'est vrai que je suis toujours impressionné quand je le vois. Ouais. C'est
Tu
vrai que ça.
lui as demandé un autographe?
Non, je n'ai jamais demandé d'autographe, mais. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un coureur que j'ai toujours aimé. Quand il avait gagné devant Armstrong à Courchevel là, en 2004, il avait levé les bras sur les côtés et pas en haut, je me rappelle. La chaussure Sidi, la petite chaussette. J'ai cette image-là et c'est vrai que ça m'a toujours motivé. Je me rappelle ce jour-là quand je l'ai vu gagner. Et après, je suis direct pris mon vélo et je suis parti à bloc dans la cour chez mes parents. Il y a des images comme ça un peu qui marquent quand on est jeune, mais c'est vrai qu'Alejandro Valverde, c'est vraiment un coureur que j'apprécie. Ouais.
Et la bonne nouvelle pour toi, Rudy, c'est que bah, l'an prochain, tu auras l'occasion encore de courir avec lui parce qu'il l'a annoncé, hein, pas de fin de carrière. Lui aussi, il a connu une belle gamelle sur la Vuelta. Il a abandonné, tout comme toi, un petit peu plus tôt. Et il l'a annoncé à Alejandro Valverde, qui sera toujours un coureur cycliste en 2022. Tu auras encore l'occasion de te mesurer à un de tes idoles de jeunesse. C'est sympa quand même le vélo.
Ah ouais, sympa, ouais, sympa.
Il y a quelque chose également que j'aimerais évoquer avec toi. Alors, ceux qui te suivent vraiment le connaissent. On parle souvent de Rudy, l'amoureux de la montagne. On sait que tu es un amoureux des voyages également. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu as monté un camp de cyclisme du côté du Kenya, à Item, en collaboration avec l'association Fungana. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet, le pourquoi du comment?
Ouais, bah, c'est un projet qui est né pendant le confinement l'année dernière. C'est vrai que c'est une association que je supporte depuis plusieurs années. C'est une amie, Nathalie, qui s'en occupe. Et on avait déjà dans un premier temps, enfin elle avait surtout, parce que moi je suis venu qu'après dans l'association, mais ouais, vraiment fait le nécessaire pour amener de l'hygiène et des meilleures conditions de vie aux enfants dans une école là-bas au Kenya, des sanitaires pour les filles, elles n'avaient pas de sanitaires, elles allaient dehors, une cantine pour manger, parce qu'il y a des gamins qui ne mangeaient pas, qui n'avaient vraiment pas d'argent, internet. Les fournitures scolaires, un puits pour l'eau potable, il n'y avait même pas d'eau potable. Enfin voilà, c'était vraiment des enfants quand même en difficulté. Et puis là, pendant le confinement, avec Nathalie, elle m'a dit bah, pourquoi pas ouvrir une école de vélo. Là-bas, les enfants, ils ne font rien, ils n'ont aucune activité extrascolaire. Quand ils sont dehors, ils sont en liberté. Voilà, ils ne font rien. Il y en a même qui n'ont jamais vu de vélo de leur vie. Donc on s'est dit bah, allez, on monte un truc, on fait une vente de cuissard maillot, puis avec l'argent, on essaye de faire ce projet-là. Et puis c'est vrai que ça nous paraissait un peu fou au début, et puis au final, ça a super bien pris. Là, on en a plus de 25 000 euros de
D'accord.
récolté pour la vente des maillots. On vient de remporter un concours là, associatif où on a récupéré 20 000 euros. Donc le projet avance vraiment bien. On a fini la piste en béton. Donc, dans un premier temps, c'était de faire une piste en béton pour que les enfants puissent rouler sur du dur et pas dans la terre battue. Donc, petit à petit, le projet avance et le but, c'est vraiment de monter une école de vélo, Rudy Mollard Cycling Camp, et permettre aux enfants là-bas de découvrir le vélo dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas essayer d'organiser des petites courses, essayer de monter un peu le niveau et pourquoi pas sortir. Quelques champions, quand on voit leur niveau en course à pied,
Oui.
je pense qu'il y en a qui ont des capacités et si ça peut leur sortir un peu de leur quotidien, bah, c'est génial, quoi. Là, à chaque fois l'équipe m'a soutenu et on a envoyé des t-shirts, des maillots, un peu de matériel là-bas et les enfants étaient vraiment super contents. Rien leur fait plaisir et ils ont toujours le sourire. Et voilà, on se dit que nous, on est quand même bien dans notre confort et ça ouvre un peu l'esprit et ça fait du bien.
Oui, parce que Iten, c'est surtout une terre de champions en course en athlétisme, l'équipe Shoguet, les Rudisha qui sont issus de là-bas. Et la question, Rudy, c'est pourquoi le Kenya, tu y étais allé auparavant ou c'est venu comme ça?
Non, j'y suis jamais allé. Bah, je voulais y aller l'année dernière, mais c'était pas possible avec le Covid. Et pourquoi le Kenya? Non, bah, simplement parce que je soutenais cette association et une amie, bah, Nathalie, a monté ça là-bas après un voyage là-bas où quand elle est revenue, elle a dit bah, je ne peux pas laisser les enfants comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est elle qui est à l'origine de tous les projets et
D'accord.
elle se démène. Donc, ouais, le Kenya, c'était vraiment par rapport à Fungana et l'association.
Toi qui as eu l'occasion de beaucoup voyager de par ton métier de coureur cycliste professionnel, tu as évolué sur différents continents. Est-ce qu'il y a une course, un pays qui t'a marqué en te disant bah, c'est un endroit sympa pour aller faire du vélo, peut-être l'Asie, le continent nord-américain. Il y a un endroit comme ça qui t'a marqué?
Pour aller faire du vélo, non, pas forcément. C'est vrai que j'ai pas forcément voyagé dans des destinations adaptées au vélo, entre guillemets. Je pense qu'en France, on est pas mal pour le vélo quand même.
Oui, on a tout ce qu'il faut. On a de bonnes infrastructures, on a la montagne, on a la mer. Effectivement, toi, tu
Les
as
routes,
un
même
cadre, oui, un cadre
la
de travail
frontière,
assez.
quand on va en Italie, c'est une catastrophe. Et quand on revient en France, on se dit que finalement, on a de la chance parce que les routes sont quand même bien entretenues.
Effectivement, les routes sont plutôt pas mal entretenues. Quoique, ça dépend des endroits. Dans les Alpes-Maritimes, du côté de chez toi, c'est pas mal. Et puis, il y a surtout un très bon terrain de jeu. Tu as la mer, tu as la montagne. Bah, tu peux aller faire presque un triathlon des neiges l'hiver. Et puis, redescendre un petit peu en bas sur le bord du littoral pour aller rouler l'été, c'est ça?
Bah ouais, c'est ça. Nager en mer un petit coup et ouais, on peut tout faire.
Oui, c'est assez sympa. Quel est le, ça je l'ai vu passer tout à l'heure, Houssen, quel est le coureur le plus drôle au sein de l'équipe Groupama FDJ?
Le plus drôle,
Tu vas pas te faire des copains là, hein?
ouais, je vais pas me faire des copains. Ouais. Non, le plus drôle, Non, on rigole souvent quand même. Après, je dirais peut-être notre Canadien, notre caribou Antoine Duchesne.
Le caribou Antoine Duchesne, ça
De par
c'est.
son accent, on rigole.
Ok. Est-ce que tu as un rapport particulier avec Marc Madiot? Marc Madiot, un personnage emblématique de cette formation Groupama FDJ, personnage emblématique, on peut le dire, grande gueule, Marc Madiot qui aime faire de grandes déclarations. Quel est ton rapport avec lui? J'imagine lors de ta prolongation, vous avez eu le loisir de discuter l'an passé.
Oui, il est très bon. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et puis, surtout et avant tout, c'est un grand passionné du vélo. Et on sent qu'il vit pour ça. Il vibre à chaque course. Voilà, l'équipe, c'est sa famille. Et dès qu'on fait un résultat, il est super content. On sent qu'il vit les choses, qu'il prend les choses à cœur et qu'il n'est pas là juste pour être manager. C'est quelqu'un qui vit aussi les émotions et qui sait les partager. Et dès qu'il y a une télé, bah, on voit souvent ce que ça donne. Ça part un peu en vrille. Mais voilà, non, moi, le rapport que j'ai avec Marc est très bon. Et ouais, ce que je retiens, c'est vraiment sa passion.
Alors, c'est une question qui est difficile hein, pour les invités généralement. Nous, on voudrait savoir ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier de coureur cycliste professionnel.
Bah, le plus, bah, c'est la compétition, hein. C'est de mettre un dossard et d'aller gagner, et de mettre en place une stratégie pour aller gagner. Ce qui est beau dans le vélo, c'est que ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc à chaque départ de course, même si on sait qu'on n'est pas favori, qu'on est outsider, on a une chance peut-être d'aller gagner. Du coup, il y a toujours ce petit côté suspense, ce petit côté motivation, et on se dit, bah, allez, aujourd'hui, c'est possible. Et ce que j'aime le moins, bah, c'est le fait d'être quand même souvent fatigué parce que pour aller chercher la performance et le 100%, bah, faut toujours jongler entre la récupération et la charge de travail. Et finalement, dans le quotidien, on est toujours fatigué. Dès qu'on l'est plus, bah, c'est le moment de refaire une grosse charge et au final, on profite pas vraiment dans la vie de tous les jours, quoi.
La diététique également, qui revient souvent quand on parle de ce que les coureurs aiment le moins, c'est quelque chose qui arrive toi, il n'y a pas de souci avec ça, tu peux manger un petit peu ce que tu veux, ça te fait. T'as pas de privation?
Bah, si, forcément, il y a des moments où il faut se priver, hein. On n'a pas le choix quand on veut perdre du poids pour les courses dures. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Après, c'est surtout mental et surtout trouver un équilibre. C'est vrai que toute ma carrière, je n'ai pas fait trop d'extrêmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et quand on a trouvé un équilibre, je pense que c'est le principal là-dessus. On est quand même un sport de force et d'endurance, donc faut pas non plus trop peu manger. Après, c'est sûr que si on veut passer l'école, bah voilà, faut pas trop abuser, mais c'est sûr que le plus dur, c'est quand même ouais, les apéros, le sucre, les gâteaux, tout ça. Bah, voilà, c'est sûr qu'il faut faire attention.
Ça va être quoi le programme pour les 4 prochaines semaines là, sans sport? Regardez un petit peu de cyclisme, regardez les copains à la télévision derrière.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Il y a un petit peu de soins, j'imagine, à la maison, de rééducation derrière.
Ouais, bah là, ça va être regarder les courses. Ouais, je vais avoir du temps pour suivre ça. Je suis un fan de MotoGP aussi, donc il va y avoir plusieurs Grands Prix. À venir et je pourrai aller regarder en live, donc ça c'est bien parce que souvent le dimanche je suis en course. Et puis ouais, un peu de séance de kiné, de rééducation respiratoire surtout, et puis bah ouais, se reposer quoi. Hein.
Le mot de la fin, Rudy, si tu avais. Allez, tu sortais du côté de chez toi, du côté de Vence, tu tombais sur la fameuse lampe magique, tu la frottes, il y a un génie qui en sort et tu as un souhait à faire exaucer. Tu choisirais quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi.
Bon, juste et simplement être heureux jusqu'à la fin de ma vie comme je le suis là. Et et pas forcément vouloir gagner telle course, ou... mais juste vivre heureux, je pense que c'est le principal, et profiter de chaque instant.
Et c'est un très bon choix, Rudy, tout à ton honneur. En tout cas, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Tu as du cœur, Rudy. L'association au Kenya, n'hésite pas à rappeler, justement, juste avant qu'on se quitte, tu peux rappeler le site où, si on veut aller faire un don, on peut y aller. Je te laisse faire.
Oui, donc il y a ou le site de l'association Fungana, ou alors sur mon profil Instagram, il y a directement le lien pour faire un don ou pour acheter les différentes tenues.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup Rudy Mollard, merci à ta formation, merci à Marion, merci à la groupe AMFDJ de nous avoir accordé cet entretien avec toi. On espère te revoir très vite, donc ça sera l'année prochaine sur un vélo, et en attendant on va te souhaiter un prompt rétablissement.
Merci. Merci,
merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi, de répondre présent à ce rendez-vous. La semaine prochaine, ça sera Rémi Rochas de la formation Cofidis qui sera présent dans le Bistro Vélo pour un rendez-vous à 17h. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.